L'ouragan Dorian qui dévaste le nord des Bahamas depuis dimanche soir est l'une des pires tempêtes de l'histoire de cet archipel des Caraïbes avec ses rafales à 300 km/h. C'est le cinquième ouragan de catégorie 5 à s'être formé dans l'Atlantique ces quatre dernières années. Les dégâts que cet ouragan a causés sont considérables et sans précédent. Caroline Muller est spécialiste des phénomènes météorologiques et des cyclones tropicaux. Elle est l'invitée de La Terre au Carré pour répondre à toutes vos questions sur cet ouragan, mais également sur les conditions à l'origine de la formation de ces phénomènes et la responsabilité du réchauffement climatique dans leur intensification. Et puis nous serons également en ligne avec Jean-Noël Degrasse, responsable de Météo France à la Martinique. J'attends donc vos appels 01 45 24 7000 et vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. À 13h40, Camille passe au vert et le sujet d'aujourd'hui, Madame Cronier.
L'écologie souriante ou déprimante, on ne sait pas.
Dans la deuxième heure, vos solutions pour la planète avec Sandrine, une auditrice de Bordeaux qui va nous parler du projet Eco-Mégo. Et puis direction la Guyane avec Célia Kiré qui a rencontré les militaires de l'opération Harpie en lutte contre l'orpaillage illégal. Et puis notre invitée découverte va nous parler du coût énergétique de la publicité numérique. Valérie Ayestaraï réalise aujourd'hui, et comme d'habitude, cette Terre au Carré.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré, sur France Inter.
Le ministre de l'Agriculture des Bahamas a filmé cette vidéo chez lui et l'a publiée sur les réseaux sociaux.
That's my kitchen window.
Ça, c'est la fenêtre de ma cuisine. L'eau est montée à au moins 6 ou 7 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Bonjour Caroline Muller.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, maître de conférence à l'ENS, spécialiste des phénomènes météorologiques et des cyclones tropicaux. Et puis nous sommes également en ligne avec vous, Jean-Noël Degrasse, depuis la Martinique. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes responsable de Météo France Martinique et vous avez longtemps fait de la prévision cyclonique dans la région. Est-ce qu'en Martinique, d'ailleurs, Jean-Noël Degrasse, vous avez ressenti très fortement le passage de l'ouragan Dorian? Comment ça s'est traduit chez vous?
Alors, on a eu le passage sur les petites Antilles de Dorian, mais qui n'était alors qu'au stade de tempête tropicale. Donc, c'est quand même un cyclone, mais avec des vents beaucoup plus faibles. Mais par contre, avec quand même des pluies diluviennes, ça a été le seul impact, entre guillemets, sur notre île.
Caroline Muller, qu'est-ce qui caractérise justement cet ouragan Dorian par rapport à tous les autres?
C'est son intensité qui est exceptionnelle. Donc, il a été catégorie 5, qui est la catégorie la plus élevée des ouragans. Il s'est affaibli récemment. Maintenant, il est en catégorie 3. Il faut savoir que ça reste un ouragan très dangereux. On considère un ouragan comme majeur quand il est catégorie 3 ou plus. Donc, il reste un ouragan majeur alors qu'il s'approche des côtes de la Floride.
Est-ce qu'il a une signature particulière encore par rapport à d'autres ouragans?
Alors, sa spécificité, en tout cas, ce qui est assez rare, c'est son ralentissement très fort sur les Bahamas. Oui. Et malheureusement, ça veut dire accumulation des effets dévastateurs, donc les pluies, les vents et la montée des eaux dans cette région.
Ouais. Donc alors, là, il faut imaginer qu'il est en train de stationner au-dessus des Bahamas. Il est au point mort, là, il ne bouge plus du tout.
Il ne bouge plus, il a commencé à rebouger très doucement, là, très récemment, mais il est resté stationné très longtemps. C'est dû aux conditions grande échelle. Mm-hmm. Et évidemment, c'est très important parce que c'est ça qui va déterminer à quel moment sa trajectoire va bifurquer vers le nord et donc à quelle distance des côtes de la Floride. Il faut savoir aussi que comme il reste longtemps au même endroit, un cyclone va favoriser la remontée d'eau profonde, froide, océanique. Et ouais. Donc ça peut l'affaiblir, parce qu'un cyclone, il aime plutôt les eaux chaudes.
Donc ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Hein.
Pour la suite, oui. Mais le fait qu'il reste longtemps sur les Bahamas, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour les populations qui sont en dessous en ce moment.
Ouais. Et ça, c'est très rare, le fait de rester comme ça au point mort. On l'observe peu chez les ouragans.
C'est pas un phénomène très, très courant. Alors maintenant, un cyclone tropical se déplace assez lentement, de l'ordre de 20 km/h. Là, il a décéléré il y a quelques jours à 10, et là, il est en dessous de ça. Donc oui, ça, c'est pas du jamais vu, mais c'est quand même particulièrement lent.
Ouais. Est-ce que du coup, ça donne son avenir un petit peu compliqué à définir, justement, du fait de cette stabilisation là au-dessus des Bahamas, hein?
Ça va influencer à la fois la trajectoire, parce que le moment exact, en fait, le fait qu'il soit si proche des côtes, ça rend la prévision très sensible au moment exact où il va bifurquer, donc là-dessus, oui, et sur son intensité, l'interaction avec l'océan et l'évolution des températures va jouer aussi. Donc oui, ça a un impact.
Jean-Noël Degrasse, quelles sont les nouvelles alors de votre côté au sujet de Dorian, et quel rôle vous jouez finalement à la Martinique sur les prévisions qu'on peut apporter à ce type de phénomène météorologique?
Alors, la situation actuelle, vous l'avez dit, c'est l'œil de cet ouragan majeur. qui génère encore des vents, hein, à 200 km/h, catégorie 3, avec des rafales qui peuvent atteindre 250. Mmh. Cet œil est quasiment stationnaire depuis plus de 24 heures. On a une île des Bahamas qui est quand même une île relativement habitée, avec en gros 50-60 000 habitants, qui est Grande Bahama, qui est depuis 36 heures sous les effets de cet ouragan, et il ne bouge pas. Alors, Caroline a dit, il y a un petit frémissement de mouvement vers le nord, mais ça se joue à 10 km près. Donc, vous voyez, c'est exceptionnel. En fait, on n'a jamais vu ça. Personne ne pouvait d'ailleurs imaginer ce scénario-là. Ralentir, oui. Stagner quelques heures, 6 heures, bon, oui. Mais là, c'est un scénario catastrophe presque. On se croirait au cinéma, dans les mauvais films de catastrophe.
Et ça, on ne l'avait jamais vu auparavant, Jean-Noël de Grasse, ce type-là de stationnement très très long.
Alors, surtout pas dans cette région. En général, il y a toujours, alors même si l'anticyclone des Bermudes est un petit peu là, même si on manque un petit peu de flux, il y a toujours suffisamment de flux directeurs, c'est-à-dire des vents qui sont organisé sur une couche importante de l'atmosphère pour pousser un peu, pour déplacer le phénomène. Et puis, voilà, et un phénomène qui, en général, traverse les îles, traverse les Bahamas. C'est assez fréquent qu'un ouragan traverse les Bahamas. On est désolé de le dire, mais c'est la réalité. Les Bahamas sont habitués à voir des ouragans traverser leur territoire, qui est d'ailleurs assez grand, hein, des centaines d'îles. Voilà. Mais cet épisode-là, et ce que tout le monde retiendra de cet épisode catastrophique, c'est un ouragan, un œil d'ouragan. Enfin, si vous voulez, il faut regarder une image satellite et voir l'œil qui tourne, qui tourne, qui tourne, et qui reste au même endroit. Ça, c'est incroyable.
Jean-Noël de Grasse, comment vous l'appelez d'ailleurs? Vous, c'est ouragan ou cyclone aux Antilles quand ça passe dans votre région?
Dans notre région, c'est-à-dire dans le bassin Atlantique, Caraïbes et Golfe du Mexique, l'appellation cyclone, c'est une famille en fait. C'est la famille des perturbations météorologiques qui ont un centre et des vents qui tournent autour. Mais contrairement à ce qu'on peut trouver dans la définition française du mot cyclone, cyclone n'a pas forcément des vents très forts. Le premier stade du cyclone, c'est la dépression tropicale, quand le cyclone commence à naître, et là on a avec des vents moyens qui sont de l'ordre maximum de 60 km/h. Comme ça se renforce un peu entre 60 et 120, c'est une tempête tropicale. Au-dessus de 120 km/h, on parle d'ouragan. Et au-dessus de 180 km/h, on parle d'ouragan majeur. Je vous ai donné les vents, mais voilà, en gros, c'est quasiment tous les 60 km/h, il y a un stade différent de dénomination.
Caroline Muller, là, pour Dorian, donc les vents qui ont pu dépasser 350 km/h, comment on peut imaginer ce que ça représente réellement?
C'est très difficile maintenant.
C'est un véritable mur, non, finalement, non?
Oui, ce sont des vents très forts. En fait, je donne souvent l'exemple des souffleries indoor. Donc, ce sont des expériences de chute libre que l'on peut faire. Je crois qu'il y en a un à la Géode. On met un ventilateur géant et on monte sur le ventilateur. Et quand il se met en route, on est arraché à la gravité. Ces vents sont de l'ordre de 200 km/h. Donc, c'est un vent. Alors, dans un cyclone, les vents sont horizontaux. Donc, ils vont pas nous propulser vers le haut. Mais ce sont des vents qui sont suffisamment forts pour nous arracher à la gravité.
Ouais. Et alors, comment on peut imaginer par rapport à un vent de 150 km/h, comment ça se calcule pour évaluer la puissance justement d'un tel phénomène?
C'est lié à une puissance du vent, la puissance est liée à un exposant du vent, donc c'est beaucoup plus fort. Sur la dénomination, je voulais revenir, le cyclone tropical, en fait, c'est le nom générique, on va dire cyclone, ça veut dire qu'il y a une circulation cyclonique dans le même sens que la rotation de la Terre, et tropical, ça veut dire qu'il est d'origine tropicale. On a aussi des cyclones extratropicaux. Et ensuite, ouragan, typhon ou cyclone tropical, ça va dépendre de l'endroit, le bassin dans lequel se trouve ce cyclone tropical.
Ouais. Est-ce qu'on arrive vraiment à prévoir la trajectoire de façon très exacte ou au contraire, il y a beaucoup de facteurs d'incertitude et sur l'avenir aussi de cet ouragan?
Alors, comme ça a été dit très bien, en fait, la trajectoire dépend des conditions grande échelle des courants atmosphériques. Donc, ce sont les grands courants atmosphériques qui transportent le cyclone tropical. Et ces dernières décennies, on a fait beaucoup de progrès sur la prévision des trajectoires. Ce qui pose plus de problèmes, c'est la prévision de l'intensité. Ouais. Et notamment leur intensification rapide, sur lequel on a encore beaucoup de choses à apprendre et qui reste un défi scientifique majeur. Ouais.
Alors justement, on en reparlera avec vous en lien aussi avec le réchauffement climatique, parce que le GIEC nous dit un certain nombre de choses. Pas forcément plus de cyclones, mais une intensité plus importante. Et puis, est-ce qu'il faut revoir justement les échelles de classement? Il y a des questions, beaucoup des auditeurs qui arrivent à ce sujet, sur Facebook et sur Twitter, et puis également au standard au 01 45 24 7000. Caroline Muller, Jean-Noël de Grasse, on vous retrouve dans un instant avec tous ces messages.
France Inter. La Terre au carré.
Ah Camille, aujourd'hui vous nous parlez de la nouvelle expression à la mode, l'écologie souriante.
Oui, je l'ai beaucoup entendu ces derniers jours et pas de la bouche de n'importe qui, d'abord jeudi.
On est là dans une écologie qui est une écologie souriante.
Vous avez reconnu,
c'était... C'est le Premier ministre.
Voilà, hein. Le Premier ministre, Edouard Philippe, qui ne parle jamais d'écologie, hein, donc c'est pas rien quand même. Et puis dimanche, ici sur France Inter, voilà ce que disait cette fois l'eurodéputé vert Yannick Jadot.
Je pense qu'il faut aujourd'hui effectivement faire de l'écologie en souriant.
Vous avez vu, c'est presque comme s'ils se répondaient les deux. Alors de quoi parle-t-il? Eh bien, de tout ce qu'on fait tous les jours, Mathieu, catastrophes annoncées pour la planète, ouais. Les ouragans, donc le réchauffement climatique, les espèces qui vont disparaître, des glaciers qui fondent, la pollution, les incendies, les sécheresses.
Oui, bon, ça va, c'est bon.
Il y en a marre, quoi. Ouais.
Tout est fait pour nous faire culpabiliser, donc au final, quoi penser?
Moi, ça me fait peur, même sur Twitter, on voit que des trucs affolants. Bah, ça encourage pas les gens parce qu'on a l'impression qu'on peut rien faire.
Les bonnes nouvelles, on ne les annonce pas.
Et vous, madame, les écologistes, ça va?
Ah non, moi, alors là, m'en parlez pas, j'y crois pas. Alors.
Pourquoi vous y croyez pas?
Parce que je trouve que c'est nul.
Ah, mais qu'est-ce qui est nul?
Tout! Moi, je les écoute même pas. Ras-le-bol!
Elle était remontée, la dame, mais alors j'ai trouvé encore mieux comme ras-le-bol des discours écolos.
Ah ben, ils nous gonflent, hein.
Pourquoi?
Ben, pas parce que ils sont en train de faire de l'écologie, mais par contre, ils trouvent tout à fait normal qu'une maman tue son enfant dans son ventre. Ça, c'est écologique, ça. C'est normal, ça.
Mais ça n'a rien à voir.
Ah ben, si, c'est de l'écologie.
Ah, alors j'ai visé large hein, dans l'éventail des gens. J'ai aussi trouvé, Mathieu, un auditeur qui a un petit message à faire passer.
France Inter, déjà, ils arrêtent d'inviter les collapsologues. Je ne savais même pas ce que c'était avant cet été, on n'a entendu que ça.
Les collapsologues, hein, adeptes de la théorie de l'effondrement, la fin de la civilisation.
L'un de ces doctrinaires du désespoir, les implacables pessimistes.
Le bal des casse-pieds en 92, ils étaient déjà là.
C'est pour ça qu'on dit que la Terre se réchauffe. En fait, elle se réchauffe. Dans 5 ans, sur ce court de tennis, il fera 60 degrés. Comme partout. On va cramer. C'est écrit, ça.
Ta gueule, Germain.
Et laissons la place, donc, à l'écologie souriante.
L'écologie, ça doit être beau, joyeux, positif. Ça doit être autre chose que des emmerdeurs qui viennent nous rabattre les oreilles comme quoi c'est la fin du monde.
Et c'est ce que dit de façon un peu plus polissée, on va dire, le symbole français de la vague verte aux européennes, Yannick Jadot, qui donne même un mode d'emploi.
Si vous voulez, les gens sont suffisamment déstabilisés, il ne faut pas les agresser, il ne faut pas les engueuler en permanence, il ne faut pas les culpabiliser, il ne faut pas leur foutre la trouille.
Et on peut le croire, hein, ce n'est pas qu'une formule l'écologie souriante. Il ne cesse de se l'appliquer d'ailleurs. J'ai fait un petit tour dans ses interviews juste depuis un an. Attention, musique. On respire.
Oui.
Écologie souriante.
Nos enfants vivront moins bien que nous. Du point de vue de l'environnement, c'est évident que la situation se dégrade. Et si on change rien, ce sera le chaos climatique, ce sera l'anéantissement du vivant. Après un rapport extrêmement alarmant sur la biodiversité, ça explose les limites de la planète.
Les centrales nucléaires aujourd'hui, ce sont des risques de plus en plus importants. Ça fout vraiment les jetons. Il y a urgence.
Et bonjour la déprime.
Ouais. Camille Passauvert, c'est à réécouter évidemment sur franceinter.fr pour écouter toutes les variations de Yannick Jadot. Une question de notre invité, Camille.
Caroline Muller, oui, ça vous auto-agace pas parfois de ne parler que de cyclone et donc de catastrophe?
D'être associé aux cyclones tropicaux, c'est sûr qu'il y a plus gai. Maintenant, j'ai quand même l'impression que cette science de participer à quelque chose d'utile, donc de mieux comprendre ces phénomènes, c'est forcément quelque chose qui est gratifiant, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qui me permet d'être heureuse quand je me lève le matin et que je vais travailler.
Ouais. Et puis ça permet de mettre de la science plutôt que de la croyance. Hein. On entendait cette dame qui disait « moi j'y crois pas à l'écologie hein. ».
C'est un terme qui m'a toujours beaucoup, quand j'ai habité aux États-Unis, j'ai travaillé là-bas, et on disait « est-ce que vous croyez au réchauffement climatique ?» Et c'est quelque chose qui me fait toujours un petit peu grincer. Genre, c'est pas une croyance, il y a des faits. Voilà.
On en parle ensemble de ce cyclone et des autres d'ailleurs. Hein. On va voir justement avec vous comment ils se forment au départ et puis comment ils évoluent. Et puis les auditeurs aimeraient beaucoup en savoir plus au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque.
Tête à demi penchée, faisant une moue dubitative, rêve dans le semi-remorque, les fous prennent tous les risques, les flux de l'arène me fait bouillir, j'ai le cœur au combat même en temps de crise. Me défendre mes affaires câlines. J'ai pas idée combien l'accès au palier va me faire pâlir de vertige. Mais ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. Les vertiges. Donc ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale. Je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale. À l'horizontale. Je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale. Tremper ses lèvres. Au tempérer la fièvre. Tremper ses lèvres. Ou tempérer la fièvre. J'aime ta tête appuyée sur ma clavicule. Légèrement tournée vers ma nuque pour que mes yeux te bougent. Que ta bouche coule parfois jusqu'au bout de mon menton. Et m'embrasse très tendrement. Avec toi j'ai tout mon temps. Les bras m'entourent mais t'entourent. Je ne dis rien car ça me va bien d'être envoûté par tes tentacules. J'ai pas de fascicule pour savoir comment m'a donné à cette sainte donation de nos corps entremêlés. Faudrait-il faire attention à l'horizontale. Je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale. À l'horizontale. Je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale. Tu voulais la mer, donc je te l'ai donnée. Les draps trempés, c'est pas que pour la scéno. Moi je suis polisson. Tu me regardes en souriant. Le baiser a fait le beau car je vois bien comme il t'a eu. Je suis rentré sans frapper, c'est une mauvaise habitude. L'approche a cédé à l'accroche qui s'est agrippée sans litige. À plus tard, on se rappelle. Si je te crois, je te connaîtrai. J'ai même espoir qu'on se reconnecte.
Aloïse Sauvage, à l'horizontale, vous l'avez compris.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Je le répète, je n'avais jamais vu un ouragan causer autant de dégâts dans mon pays. On est choqué, abasourdi, et bien sûr, nous devons réagir et porter secours à tous ces gens.
Voilà, Dorian qui nous donne l'occasion de parler des ouragans en général avec mes invités. Caroline Muller en studio avec moi à Paris, puis Jean-Noël Degrasse à la Martinique. Et bien sûr, vos appels au standard au 01 45 24 7000. Et justement, nous avons un appel de la Martinique, Aurélien. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous, votre question.
Alors, je voulais poser une question au responsable de Météo France de la Martinique. Donc, je viens d'apprendre que l'ouragan, l'ouragan est resté stagné sur les Bahamas. Et donc, je voulais savoir quelles conséquences ça nous arrivait, parce que c'est vrai qu'on a, entre guillemets, de la chance que ça ne soit que de passage, et quelles conséquences en termes d'infrastructure aurait l'ouragan sur la Martinique s'il était amené à stagner.
Alors, Jean-Noël Degrasse, votre réponse à votre voisin, du coup, Aurélien.
Oui, alors c'est vrai que quand on parle d'ouragan, on se focalise sur les vents violents, des vents jusqu'à 300 km/h. On oublie, et je vais le dire assez directement, que c'est pas le vent qui tue le plus, c'est vraiment l'eau. C'est l'eau qui vient de la mer et c'est l'eau qui vient des pluies et leurs conséquences, bien évidemment. Donc un ouragan qui stagne comme ça, avec des vents violents, ça veut dire aussi des conditions de submersion marine, c'est-à-dire la mer qui va monter dans tous les fonds de baies qui sont exposés et qui va monter de plusieurs mètres. Et plusieurs mètres de montée du niveau de la mer, ça veut dire de la mer qui rentre très loin dans les terres, dans les zones basses ou dans les zones littorales. Ajoutez à cela les vagues, des vagues de cyclones majeurs, ça peut être des vagues qui sont supérieures à 10 mètres. On en a mesuré au passage d'un ouragan qui n'était même pas majeur en Martinique, avec des houlographes qu'on a le long des côtes. C'était entre 10 et 13 mètres. Donc ça vous donne une idée de ce qu'on peut avoir comme conditions de mer. Autre chose, les pluies diluviennes, on l'a vu en 2017 sur Porto Rico, et c'est particulièrement important sur des îles comme la Martinique, où il y a des reliefs très escarpés. Eh bien ces pluies, ça peut être plusieurs centaines de millimètres en 24 heures. On a vu sur Porto Rico avoir des quantités qui approchaient les 1000 millimètres. Et ça veut dire que les conséquences sont terribles, parce que c'est des crues, ce sont des coulées de boue, ce sont des glissements de terrain, et c'est ce qui tue énormément. Dans la Caraïbe, les grosses catastrophes humaines sont liées aussi aux pluies. Haïti, petite tempête tropicale de faible intensité de vent. Jeanne, en 2004, c'était 3000 morts dans des inondations.
Mais justement, Jean-Noël Degrasse, est-ce que les infrastructures à la Martinique sont adaptées à des vents comme Dorian à plus de 300 km/h?
Alors, encore une fois, adapté, et c'est une discussion qui est en cours avec tous les ingénieurs structurels, bâtiments, parce que tout le monde se pose la question, ne faut-il pas revoir les codes de construction par rapport à des vents qui sont de plus en plus forts, mais aussi y intégrer d'autres paramètres destructeurs que le vent. Parce que avoir une maison qui résiste au vent et qui est sur une frange littorale, si elle ne résiste pas aux invasions marines, ça ne sert à rien.
Une question, Camille.
Question pour vous, Caroline Muller, qui vient de Twitter. Je relis deux questions. D'abord, la première qui demande si avec les changements climatiques, on pourrait imaginer qu'il n'y ait plus de saisonnalité des cyclones, c'est-à-dire qu'il y en ait de plus en plus. Et une deuxième question qui demande si dans le futur, on pourrait voir des cyclones de catégorie 6 ou plus.
Donc 5, c'est le maximum pour l'instant, 5, c'est le maximum, dans l'échelle.
Oui. Alors pour la saisonnalité, bon, pas dans un futur proche, c'est pas prévu. En fait, le cyclone est un phénomène météorologique naturel qui a pour but de enlever l'excès d'énergie reçu par les océans pendant l'été et le transférer vers l'atmosphère qui va ensuite être transporté par le cyclone vers les moyennes latitudes. Donc c'est pour ça que c'est en septembre, c'est en fin d'été, là où l'océan a reçu le maximum d'énergie et c'est à ce moment-là que ça arrive. Donc ça, a priori, dans un futur proche, ce sera toujours la saisonnalité pour les ouragans. Dans d'autres régions du monde, évidemment, c'est l'inverse. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Ensuite, sur les catégories, alors ça a été mentionné notamment il y a 2 ans, quand on a eu Maria, Irma. Alors en fait, les catégories sont basées sur les vents. La catégorie 5, c'est quand les vents dépassent de l'ordre de 250 km/h. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a cette catégorie? Pourquoi est-ce qu'on communique cette catégorie? C'est parce que les vents sont corrélés aux dégâts. Donc c'est basé sur les dégâts. Et malheureusement, au-delà de 250 km/h, les dégâts sont déjà maximaux.
D'accord, donc voilà. On ne peut pas faire plus maximum que le maximum.
Ah, disons que ce sera plus représentatif nécessairement des dégâts qui sont occasionnés par les forces des vents.
Christian, bonjour, vous êtes en ligne également.
Allô?
Oui, bonjour Christian.
Oui, bonjour.
On écoute votre question.
Voilà. Ma question, bah écoutez, je m'inquiète bien sûr pour la planète, tous ces phénomènes climatiques exceptionnels, mais qu'en est-il de l'impact sur les phénomènes en France? Et notamment dans le sud de la France, où j'ai vécu en octobre 2015, un orage terrible et qui a fait, vous rappelez, beaucoup de morts au bord de mer.
En France métropolitaine, donc.
Oui, tout à fait. J'allais préciser. En France métropolitaine, effectivement. Alors, les événements météorologiques à nos latitudes ne sont pas les mêmes parce que les paramètres géophysiques ne sont pas les mêmes. Notamment la force de Coriolis, la force qui est liée à la rotation de la Terre, n'a pas la même amplitude. Donc, les phénomènes météorologiques sont différents, mais les processus physiques sont les mêmes. Donc, notamment, la quantité d'eau que l'air peut contenir dépend de la température. Et plus on se réchauffe, plus l'air est humide. Et donc, même si... donc, dans le sud de la France, on a ce qu'on appelle les événements Cévenol, qui sont ces pluies extrêmement intenses en septembre, octobre. Et donc, si les extrêmes de pluie suivent l'augmentation de l'humidité, ce que l'on pense, ça veut dire que l'intensité des pluies extrêmes lors des événements Cévenol va augmenter également. Donc, tous les processus physiques qui ont des conséquences sur les pluies dans les cyclones tropicaux s'appliquent également aux phénomènes météorologiques de nos latitudes.
Ouais, donc, c'est ce que dit le GIEC, en tout cas, hein, sur, alors pas forcément plus de cyclones à l'avenir, mais une intensification des phénomènes. Hein.
Alors il y a plein d'aspects sur les cyclones tropicaux spécifiquement, c'est évidemment une question cruciale. Quel est l'impact du réchauffement climatique sur les cyclones tropicaux? Mais c'est une question difficile aussi. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile? En fait, les cyclones tropicaux sont des événements qui restent relativement rares, heureusement, j'allais dire. Et donc sur les observations, on a aussi un recul limité parce que pour la couverture globale, on dépend de satellites et l'ère satellitaire, c'est à peu près 1980. Donc, on n'a pas un recul énorme. Pour faire des tendances, c'est compliqué. Et sur la fréquence, on n'a pas de signal fort. Donc, plus que la fréquence, c'est l'intensité, effectivement, qui inquiète. Et je rajouterais juste que même à intensité égale, on a vu que le niveau de la mer augmente avec le réchauffement. Et donc, la houle et l'augmentation du niveau de la mer associée aux cyclones tropicaux s'ajoutent à cette tendance de fond.
Ouais, justement, Jean-Noël Degrasse, en Martinique, aux Petites Antilles, quels sont les phénomènes les plus anciens dont on a la trace aujourd'hui? Parce que les archives d'un passage de cyclone, c'est quand même très compliqué, ou est-ce qu'on a quand même des indices?
Non, il existe l'histoire des cyclones existe, elle est documentée par rapport à certains dégâts, certaines conséquences, mais vous imaginez que au début des années 1900, il y a eu des cyclones dans les années 1920, 1930 qui ont énormément marqué. Bien sûr, il y en a eu avant, mais c'était très difficile de pouvoir caractériser, de dire qu'est-ce qu'il y avait comme force de vent, qu'est-ce qu'on a eu comme marée de tempête, voilà. Donc si vous voulez, on a une base de données des cyclones qui est très très imparfaite. Ça veut dire que, en général, quand on parle changement climatique, par exemple, mais on aime bien quand même savoir ce qui s'est passé sur les dizaines d'années, voire plus, précédentes, et voir est-ce qu'on est déjà dans une tendance. Mmh. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, et d'ailleurs, des experts le disent, au début de dans les années 1920, 30, 40, 50, vraisemblablement, il y a beaucoup de cyclones qu'on ne voyait pas, qu'on ratait, qui étaient uniquement dans l'Atlantique, qui ne touchaient aucune côte. Il y a beaucoup de cyclones qu'on a sous-estimés en termes de mesure de vent. Et donc maintenant, quand on joue, vous voyez, avec les satellites, avec les capacités qu'on a de mesurer le vent, juste en regardant comment les vagues sont réglées. Vous imaginez, c'est ce que on appelle ça des scatéromètres. Vous imaginez la précision que ça peut avoir. On a des avions chasseurs de cyclones qui font des mesures à 2 ou 3 km/h près. Et là, bien sûr, on peut être précis sur les catégories. Mais dire, est-ce qu'il y a plus d'ouragans majeurs ou catégorie 4-5 maintenant qu'il y en avait le siècle dernier, c'est très compliqué.
Caroline Muller, question. Est-ce qu'on pourrait imaginer, dans quelques dizaines d'années, un ouragan en Europe ?
Alors, à nos latitudes, pareil, c'est pas dans les prévisions. Il faudrait que la bande tropicale... Ça reste un phénomène tropical, cyclone tropical, qui prend naissance près de l'équateur et qui ensuite vient à nos latitudes. Alors, un cyclone tropical peut atteindre, monter le long de la côte des États-Unis et revenir vers l'Europe. C'est arrivé... Alors, il fait dans ces cas-là ce qu'on appelle une transition extratropicale, c'est-à-dire qu'il fait une transformation entre le cyclone tropical, qui a ses propres caractéristiques, et le cyclone extratropical, qui est toujours cette circulation cyclonique, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord, mais qui a des caractéristiques différentes, notamment le cyclone tropical a un cœur chaud et le cyclone extratropical a un cœur froid. Mais ça apporte aussi des pluies.
Et dans ces cas-là, voilà, les conséquences pour l'Europe, c'est quoi? Des pluies particulièrement
intenses? Des pluies en Irlande, on a eu ça il y a 2 ans, donc on peut avoir des pluies qui sont dangereuses pour les populations aussi.
Donc Choukakou qui nous envoie un deuxième tweet sur le possible cyclone en Méditerranée, là vous êtes plutôt rassurant à ce sujet-là ?
Oui, alors il y a des cyclones hybrides en Méditerranée, on les appelle les Medicanes, qui existent. Ils ont pas la même ampleur, la même taille que les cyclones tropicaux. Ils sont un peu hybrides parce qu'ils sont entre le cyclone tropical et le cyclone extratropical. Ils sont aussi associés à des conditions météorologiques difficiles, mais ça n'a pas l'ampleur d'un cyclone tropical. Encore une fois, parce que les paramètres géophysiques ne sont pas les mêmes et donc la dynamique, les forces ne sont pas les mêmes.
Alors moi j'ai une question un peu naïve qui s'adresse aussi bien à vous Jean-Noël Degrasse qu'à vous Caroline Muller. On parle cyclone, ouragan, j'ai dans la tête un film qui s'appelle Twister, là ça parle de tornade. Vous faites vos recherches depuis un laboratoire ou parfois vous allez sur le terrain et donc vous allez au plus proche de ces ouragans, de ces tempêtes et de ces cyclones.
Alors, Jean-Noël Degrasse, pour commencer.
Alors, être sur le terrain, c'est pas le terme exact. Par contre, vous savez, personnellement, moi, depuis plus de 20 ans, je suis quasiment tout ce qui se passe dans la Caraïbe. D'abord parce que on travaille tous en coopération. Ça veut dire que c'est pas parce que l'ouragan, il est actuellement sur les Bahamas, qu'on s'en désintéresse un peu ou qu'on le regarde que sur l'aspect médiatique. On a, je veux dire, heureusement, une espèce de curiosité qui nous apprend tous les jours à être humble devant la nature, mais qui nous apprend aussi à mieux comprendre les phénomènes des cyclones, à mieux...
Mais est-ce que vous êtes allé à l'intérieur ou pas ?
Est-ce que c'est comme dans les films ?
Alors, moi, non, alors j'ai eu l'occasion de voler dans un avion chasseur de cyclones. Ah, alors, ouais. C'était sur une tempête atlantique, un petit peu plus qu'expliquait Caroline, une tempête extra-tempérée. C'est vrai que ce sont des vols impressionnants. On est tous les ans, on rencontre les gens qui volent dans les ouragans. Donc ça, c'est une particularité. Mais vivre un ouragan majeur qui passe sur ma tête, non, j'étais là pour Dean, 2007, en Martinique, des vents qui ont dépassé les 200 km/h, des vagues de 12-13 mètres, des pluies de 400 ou 500 mm. Je peux vous dire, c'est déjà très, très impressionnant et on est très inquiet.
Ouais. Caroline Muller, de votre côté.
Oui, je vais pas répéter, mais c'est un effort collaboratif international et on attaque tous les aspects, évidemment. Il y a des équipes qui vont prendre des mesures in situ, donc sur place d'avion. Il y a des drones qui sont envoyés, on a accès à ces données. Il y a les données satellitaires, il y a des gens qui vont faire l'aspect physique théorique et des gens qui font les modélisations numériques. Donc on attaque tous les aspects que l'on peut.
Pour l'instant, on reste complètement impuissant face à un cyclone. On n'en a pas la maîtrise, on ne peut pas le détourner avec des moyens technologiques.
Non, ça a été pensé, c'est pas faute d'y avoir réfléchi, le bilan est implacable. Devant un cyclone tropical, on ne peut être que humble, ça dépasse notre échelle humaine. Un cyclone tropical, c'est plusieurs bombes atomiques par heure, donc ça dépasse notre échelle et ce qu'on peut y faire. En revanche, on le voit arriver, c'est pas comme un tremblement de terre, on le voit arriver, donc on peut se préparer et plutôt que d'essayer de le changer, le mieux le comprendre pour mieux le prévoir, c'est le meilleur angle.
Merci Caroline Muller, merci beaucoup. Et Jean-Noël Degrasse à la Martinique, merci beaucoup. Apparemment, Dorian est en train de bouger selon les dernières informations. Tout à l'heure, après les infos, vos solutions pour la planète, avec Sandrine aujourd'hui, une auditrice de Bordeaux qui va nous parler d'un projet éco-mégot.
Inter. La Terre au carré.
Ah ben tiens, justement, à la fin de cette demi-heure, on s'intéressera au coût énergétique de la publicité numérique avec un doctorant qui travaille sur le sujet. C'est assez édifiant. Et puis dans quelques minutes, nous repartirons en Guyane avec Célia Quiré. C'est le feuilleton de la semaine avec aujourd'hui un reportage consacré à l'orpaillage illégal. Mais pour le moment, partons à Bordeaux où nous attend Sandrine. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Sandrine, vous êtes la directrice générale associée d'Éco-Mégot à Bordeaux. Donc, racontez-nous un petit peu quel est ce projet.
Alors Éco-Mégot, c'est un projet qui est né en juin 2016, qui a été fondé par mon associé Erwin Faure, qui est parti d'un constat tout simple. Il est parti dans les pays nordiques, où en fait il a vu qu'il y avait des cendriers à peu près tous les 100 mètres et aucun mégot par terre. De là, il s'est dit bah ça peut être quelque chose d'intéressant pour la France, et ce déchet, tiens, si on s'y plonge un peu, personne s'y intéresse. Pourquoi pas, en plus, en fait, créer un déchet qui pourrait générer de l'emploi. Il est revenu avec cette idée et cette solution innovante, et de là est né Éco-Mégot, qui converge économie circulaire, emploi local et recyclage des mégots.
Bon, Sandrine, le mégot, c'est une vraie plaie, hein, il suffit de regarder sur le sol autour de soi. Vous avez quelques chiffres, tiens, pour qu'on prenne conscience un petit peu de l'ampleur du phénomène ?
Alors, il y a beaucoup de chiffres. Les plus impactants, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mégot contamine 500 litres d'eau, un seul, donc ce qui est énorme, et qui est un peu d'actualité aussi. Un mégot est cause 16% des départs de feu sont dus à des mégots. Donc, c'est vraiment affligeant. Et il met 12 ans à se dégrader. Il y a plus de 40 milliards de mégots qui sont jetés par terre en France.
40 milliards de mégots par an.
40 milliards.
Ah oui, il y a du boulot,
que,
donc. Hein.
Parce que les gens, juste, ne font pas les 3 mètres qu'il leur faut pour aller mettre leur mégot à la poubelle.
C'est ça. Alors, parfois, il manque 3 mètres ou alors, effectivement, il n'y a pas assez de mégots dans les rues. Et vu qu'on parle d'un déchet, ben, c'est gênant dans la main, ça sent mauvais. Donc, on préfère le jeter par terre plutôt que, effectivement, aller trouver un cendrier, même si c'est à plus de 3 mètres.
Alors, Sandrine, moi, je suis allée sur votre site internet et j'ai vu que le projet Éco-Mégot, c'est sensibiliser et collecter. Voilà. Donc, on a donné les deux angles, finalement, de votre action. Donc, sensibiliser, c'est quoi? C'est le grand public, tout simplement, déjà?
C'est ça. Alors c'est vrai que c'est important de le souligner, la sensibilisation est indispensable pour justement ce qu'on disait à l'instant, faire les 3 derniers mètres. Sensibiliser, c'est en fait aller par exemple tenir des stands dans des entreprises, aller à la rencontre de concitoyens dans les rues des villes, des petites communes.
Vous les guettez
aussi... Pardon ?
Vous les guettez dans la rue pour leur dire attention, ce que vous venez de faire, c'est pas bien ?
Alors ça dépend, ça peut être oui, on les guette et on va à leur rencontre, ça peut être des événements qu'on organise de collecte, notamment un quartier de Bordeaux qui s'appelle le quartier de la Bastide qu'on a fait il y a quelques années, c'était un événement où en fait on faisait de la collecte avec les citoyens pour justement aller ramasser les mégots par terre et aller justement à la rencontre d'autres passants, d'autres badauds, pour leur expliquer quel est l'impact du mégot de cigarette sur notre planète et pourquoi il est indispensable d'aller jeter son mégot dans des cendriers. Et après effectivement, ça c'est la deuxième partie d'Éco-Mégot. Donc on va collecter les cendriers qui sont faits soit en direct par des personnes qui sont en réinsertion professionnelle, soit ils sont faits par des chantiers d'insertion qui sont déployés absolument sur tout le territoire.
Mais alors comment on recycle les mégots du coup, Sandrine? On peut en faire quoi par exemple d'utile et d'intéressant?
Alors, il y a plusieurs choses. On a une partie valorisation et une partie transformation. La partie valorisation est très intéressante, en fait, pour schématiser que ce soit facile et compréhensible. On le transforme, en fait, en petits granules pour en faire un combustible solide de substitution. Donc, derrière ce mot un peu scientifique, c'est tout simple. C'est des granules, en fait, qui sont envoyés dans des fours de cimenterie et qui brûlent les fours pour, en fait, créer du ciment. L'avantage de cette solution, c'est que les fours de cimenterie, pour monter très fort en température, à l'heure actuelle, on utilise de l'énergie fossile. Donc en fait, en utilisant nos mégots qui sont des déchets dangereux, il faut bien le rappeler, c'est très dangereux, du coup, on utilise moins d'énergie fossile.
D'accord, vous remplacez les mégots pour faire chauffer les fours du ciment.
Exactement.
Donc ça, ce sont des opérations que vous menez. Alors Éco-Mégot, c'est à Bordeaux, mais est-ce que dans toute la France, finalement, il y a le même type d'initiative ?
Alors, on a deux antennes principales, on est à Bordeaux et à Lyon, donc c'est là où en fait on collecte en direct, à vélo surtout, hein, on essaie de limiter aussi bien sûr l'impact environnemental et l'impact carbone. Après, on est absolument sur tout le territoire, peu importe où sont les entreprises, les festivals, les associations, les collectivités. En fait, vu qu'on marche en local, on a toujours des chantiers d'insertion ou des structures de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, pardon, qui sont sur place justement pour que la solution complète d'Écomégo soit mise en place.
Mais comment vous allez faire, Sandrine? Quand on arrêtera de jeter nos mégots par terre, c'est la fin de votre entreprise alors finalement?
Alors, ce qu'il faut savoir,
vous avez réfléchi à la question
de l'ESS, donc en fait on a un but d'utilité sociale. Et du coup, si un jour, et on l'espère que ça arrivera bien sûr, tout le monde arrête de jeter le mégot par terre, déjà on aura gagné. Et dans tous les cas, comme je vous le rappelle, il y a plus de 40 milliards de mégots qui sont jetés chaque année en France par terre, donc on a encore une longue autoroute devant nous, et de toute façon il y a bien d'autres déchets à aller trouver des solutions en France pour continuer notre jolie entreprise.
Vous le ferez avec les chewing-gums ensuite.
notamment.
On peut le décliner à l'infini.
On va s'y attaquer, vous inquiétez pas.
C'est vrai qu'on peut le décliner absolument à l'infini. Quand vous avez fait votre opération de ramassage là à Bordeaux, vous avez compté le nombre de mégots que vous avez ramassés avec les concitoyens ou pas?
Alors c'est oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple sur cet événement-là, donc qui était au quartier de la Bastide, donc on a eu que 2 heures qui étaient organisées avec toutes les personnes, où on a ramassé avec des pinces, des sacs et des gants, hein, donc ce qui veut dire que c'est vraiment accessible à tout le monde. Mmh. En 2 heures, c'était des centaines de milliers de mégots qui ont été ramassés.
Rien qu'à Bordeaux.
Donc c'est assez énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment le mégot, pourquoi il est indispensable de ne pas le jeter par terre, c'est que c'est un micro déchet qui est très léger. Donc en fait quand il y a de la pluie ou qu'il y a du vent, il finit automatiquement dans les égouts. Mmh. Et où vont nos égouts? Ben, ça finit dans les mers et dans les océans. Et notamment, le mégot, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier déchet en quantité qu'on le retrouve en mer Méditerranée.
Ouais, triste pêche miraculeuse. Effectivement, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, ecomégot.com, toutes les infos sont évidemment sur la page de la Terre au Carré. Merci Sandrine pour cette initiative et pour tous ceux qui ont envie de faire comme vous et de nous parler de ce qu'ils font en solo ou en collectif, et bien vous passez par la page de la Terre au Carré ou sur le mot-clé l'attaque. Bonjour Célia Quilleret.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Suite de notre reportage en Guyane avec vous cette semaine. Alors là, on met les bottes, la cape de pluie, la capuche, et vous nous emmenez à Cacao, dans la montagne, à 60 km de Cayenne, où les militaires de l'opération Harpie tentent de lutter contre le garimperos, hein, les orpailleurs illégaux qui viennent du Brésil pour récolter quelques pépites. Hein.
Oui, et à Cacao, les militaires ont justement démantelé au début de l'été tout un campement d'orpailleurs brésiliens. La forêt est éventrée, les sols sont boueux, il faut grimper au milieu des arbres, traverser des ruisseaux. Il faut savoir que les militaires vivent ici dans des conditions très difficiles pour surveiller la forêt, tenter de la protéger contre des assauts futurs. La forêt amazonienne est très dense, peu accessible. La lutte contre l'orpaillage illégal est un éternel recommencement.
Ici, on est sur un ancien site d'orpaillage illégal. On est en haut de la montagne Chawari. Donc on est juste à côté de la route nationale numéro 2. C'est une zone qui est orpaillée, qui fait environ 500 mètres sur 200 mètres de large. Quand on est arrivé le premier jour ici, on a trouvé 31 puits actifs. On a trouvé beaucoup de matériel type concasseur, on a trouvé des groupes électrogènes, des moteurs, voilà, tout le matériel qui leur permet d'extraire la terre, etc., et d'en extraire l'or. Il y avait également au bout là-bas du découvert un petit carbé, un atelier bijouterie, où directement il y avait un bijoutier qui avait même un catalogue qui devait sûrement, dès lors extrait, commencer à travailler pour faire des bijoux. Alors moi je suis le lieutenant Augustin. Le but c'est bien de tenir le site et de temps en temps faire une patrouille de manière aléatoire pour continuer de leur montrer notre présence ici et donc pour dissuader les orpailleurs illégaux de revenir mener des travaux sur le site.
Moi je suis le lieutenant-colonel Villeray. Je commande le centre de conduite des opérations Harpie de la gendarmerie de Guyane.
Et justement, quand on voit la forêt ici pour, comme on dit, lutter contre l'orpaillage illégal, ça suppose d'abord de trouver où ils sont, en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? En fait, c'est quand même un terrain difficile.
Oui. Il faut effectivement d'abord qu'on acquiert cette faculté de savoir où sont les garimperos. L'essentiel de notre renseignement, on l'obtient par voie aérienne, qui nous permettent de repérer les sites depuis la troisième dimension. On les voit parce que forcément, les activités d'orpaillage, ça crée des trouées dans la forêt. Donc c'est comme ça qu'on réussit à repérer les garimperos essentiellement. Mais aussi grâce à la turbidité qui est provoquée dans les eaux. Hein, les eaux boueuses qui sont rejetées par les garimperos dans les criques et dans les fleuves de Guyane, ça crée des grandes traces de boue. Et en suivant les traces de boue, on arrive à remonter jusqu'au site. Et ensuite, on décline ça sous forme de mission, de gars qu'on envoie sur tel point, puis sur tel autre, de façon à petit à petit réduire l'empreinte des garimperos en forêt.
C'est une mission difficile.
Très compliqué, oui. C'est en 2018, 1300 missions qui ont été conduites en forêt. Entre un jour pour les plus courtes et plusieurs semaines, 3-4 pour les plus longues. Et tout ça se fait bien évidemment en grand coup de personnel, de moyens matériels, notamment d'aéromobilité et de sueur, et parfois de sang.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me décrire ce qu'on voit comme effet sur l'environnement ?
On le mesure totalement.
Jean-Luc Sibyl.
On voit bien l'impact sur la forêt, de l'orpaillage, qu'il soit illégal, mais on l'a vu aussi là-bas comme sur le légal. On exploite les arbres, et ici encore plus sur du primaire. L'exploitation se fait pour utiliser les bois afin de fabriquer des étais pour protéger les mines, pour protéger les gens qui vont descendre dans la mine. Donc on coupe des arbres, il les coupe et puis ensuite il les débite sur place, comme on a pu le voir plus bas, et ces débits sont utilisés pour fabriquer des étais. Il y a un impact qui est relativement direct, puisque là, une fois qu'il n'y a plus d'arbres, il y a des érosions, et les érosions donc emportent la terre, emportent le sol, et donc la forêt ne pourra pas se reconstituer comme elle était auparavant.
Là, les grands trous, en fait, c'est une forêt qui c'est du gruyère.
Bah là, en l'occurrence, oui, ça va être du gruyère, oui. Quand ils sortent les roches de la mine, ensuite, ils les délitent et ils les font passer sur des tables vibrantes pour pouvoir sortir les paillettes d'or qui sont issues des terres qui ont été broyées. Et donc là, on voit le résultat. On crée une couche complètement étanche et complètement imperméable qui sera anoxique et qui ne pourra rien, sur lequel rien ne pourra pousser.
L'orpaillage illégal, on arrive à le quantifier. On sait que c'est à peu près 7000 orpailleurs illégaux présents sur le territoire en permanence. Alors le chiffre peut évoluer, certains vont jusqu'à 10 000. Mais disons que 7 000 orpailleurs illégaux qui sortent chaque année à peu près 7 tonnes d'or, qui fait un manque à gagner de 260 millions d'euros par an, environ, ce sont des estimations. Moi je suis Damien Ripert, le chef de l'état-major du préfet pour la lutte contre l'orpaillage illégal. Ce phénomène-là, on considère que c'est un phénomène qui est contenu du fait de l'opération Harpy, qui est une opération pérenne et permanente depuis 2008. L'éradication de l'orpaillage illégal en Guyane est très difficile à obtenir, voire quasiment impossible, et c'est pas un objectif qu'on affiche. On passe très facilement du Brésil à la Guyane et du Suriname à la Guyane. Les marchandises, les équipements illégaux qui sont utilisés sur les sites d'orpaillage illégal passent aussi très facilement.
On entend bien la pluie tropicale, hein, Célia. Les ONG alertent sur les dangers de cet orpaillage totalement anarchique.
Hein. Oui, car la forêt doit encore être mieux protégée. On perd en Guyane chaque année 500 à 1000 hectares de forêt primaire, avec des espèces endémiques qui ne sont pas encore toutes connues et répertoriées. C'est un poumon de la planète. Les militaires manquent de moyens et cette lutte peut être dramatique pour les soldats. 3 soldats français sont morts en juillet dernier. Ils tentaient justement de détruire un puits d'orpaillage illégal.
Suite de votre feuilleton en Guyane demain, Célia.
Avec un changement de décor, nous partons sur les plages de Cayenne pour assister à la naissance des tortues luttes, des tortues un peu mieux protégées aujourd'hui, grâce notamment aux astuces des pêcheurs.
Merci beaucoup, à demain. Dans un instant, on parle du coût énergétique des publicités numériques avec notre invité découverte.
What the fuck are fucking feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even want a hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some mo. Trying to open up a little mo. Sorry if my heart a little slow. I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But baby, baby, I don't know what I'm gonna do. I'm crying cause I love you. Yes, you. Yeah, 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 yeah. Got me standing in the rain. Gotta get my hair pressed again. I would do it for you all, my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But baby, oh baby, I don't know what I'm gonna do. I'm crying cause I love. I thought that I
Cause I Love You, c'était Lizzo.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Bonjour Théophile Mégali.
Bonjour Mathieu Vidard.
Bienvenue, vous êtes doctorant en économie et gestion à l'Université Paris-Dauphine. Vous travaillez sur une thèse qui porte sur la régulation des marchés de la publicité en ligne. Là, vous êtes en duplex des studios de France Bleu Loire-Océan à Nantes et vous avez signé pour le site The Conversation France un article qui nous a beaucoup intéressé sur la pollution numérique et c'est sous forme de manifeste d'ailleurs que vous avez publié cet article. Vous militez pour une sobriété publicitaire. Alors, racontez-nous un peu comment vous avez été amené à vous intéresser à ce sujet de la pollution, de la publicité numérique en particulier.
Oui, alors effectivement, donc moi, ma thèse porte sur le marché de la publicité en ligne et notamment ses infrastructures. Et c'est vrai que dans l'actualité récente, on parle beaucoup de pollution numérique, de liée à toutes les activités en fait numériques de manière générale. Et je trouvais qu'en fait le sujet publicitaire était un peu impensé par rapport à ces réflexions. Et donc, je me suis mis en quête d'écrire un article, de trouver des sources scientifiques pour appuyer mon raisonnement.
Alors, vous avez bien fait. Alors, la publicité numérique, pour aller nous mettre un petit peu justement dans le sujet, c'est quoi ? Parce qu'on en est entouré en permanence, hein, finalement.
Tout à fait. Alors, il faut distinguer deux choses. La publicité numérique, on peut prendre ça au sens large, c'est-à-dire la publicité sur tous les types de supports numériques ou, avec un anglicisme, on pourrait dire digitaux. Donc, c'est-à-dire à la fois la publicité qu'on reçoit sur nos smartphones, sur nos ordinateurs, mais aussi à l'extérieur, sur des panneaux numériques ou sur notre télévision quand on la reçoit par une box, par exemple. Mais c'est aussi la publicité en ligne, c'est-à-dire la publicité qui, en fait, est diffusée via Internet. Voilà, donc ça, sont deux choses qui sont parallèles, en fait, et qui se recoupent.
Alors, cette année, il y a eu quand même un petit événement, c'est que les investissements dans ce domaine de la publicité ont dépassé ceux des supports traditionnels, comme le papier, par exemple.
Tout à fait. Alors ça, ce chiffre-là est valable pour la publicité sur Internet. Hein. Donc, en fait, c'était prévisible depuis quelques années, mais effectivement, là, ça y est, on va dire 2018 a été l'année où effectivement les investissements publicitaires sur la publicité en ligne ont dépassé les médias traditionnels, donc c'est-à-dire la télévision ou la radio ou les magazines, par exemple, ou l'affichage extérieur.
Comment, Théophile Magali, comment est-ce qu'on calcule, est-ce qu'on mesure la pollution de ces publicités numériques ? Est-ce qu'on peut déjà le faire ?
Alors c'est une bonne question. Effectivement, en fait, là, donc dans l'article que j'ai rédigé, je m'appuie en fait principalement sur une étude menée par des chercheurs américains, espagnols et finlandais. Qui sont eux plutôt des ingénieurs en fait, hein, ce que je ne suis pas moi-même. Et en fait, l'idée est de regarder, en calculant la consommation énergétique totale des activités numériques, d'essayer d'extraire de ce calcul global ce qui appartient à la publicité. Et c'est un calcul, qui est très complexe et qui est réalisé donc dans un article dont vous laisserez peut-être, j'imagine, le lien.
Ah ben il y a le lien de toute façon, effectivement. Et puis vous le mettez dans The Conversation, voilà. Hein, donc on
Exactement.
Peut cliquer dessus. Ouais. Alors donc qu'est-ce que ça donne ce calcul d'Environmental Impact Assessment of Online Advertising ?
Quel accent !
Yes.
Alors, en fait, pour résumer et être assez synthétique, en fait, il y a trois postes de dépenses énergétiques. Il y a un poste qui est lié, en fait, à notre terminal, c'est-à-dire le terminal sur lequel on va recevoir la publicité. Donc, votre smartphone, votre ordinateur, etc. En fait, la publicité, en étant affichée, implique d'utiliser la puissance de calcul de l'ordinateur qui est à l'intérieur de ce terminal et qui, donc, lui fait consommer de la batterie, en quelque sorte. Il y a cette partie-là. Ensuite, il y a les données en fait qui correspondent au contenu publicitaire qui sont transmises et qui sont stockées provisoirement dans des espaces de stockage, donc dans des data centers notamment. Donc ça, c'est la partie un peu intermédiaire. Et il y a également la partie en fait qui est liée à l'utilisation des réseaux d'information, c'est-à-dire des réseaux Internet tout simplement. Donc voilà, ça correspond à peu près aux trois sources de consommation en fait d'énergie liée à la publicité.
Et alors Théophile Mégali, quand on prend tout ça en compte, finalement, ça donne quoi comme chiffre de consommation ? On peut l'estimer quand même un petit peu, hein ?
Voilà, alors les chercheurs de l'étude en question, en fait, ont essayé de produire une mesure globale, en fait, avec une forme d'extrapolation, et ils arrivent à un chiffre un peu écrémé des différentes incertitudes, hein, qui sont nombreuses, je le répète, et ils arrivent à peu près à 106 TWh pour l'année 2016, donc de consommation électrique, ce qui correspond également à une production. Alors,
oui, donnez-nous un comparatif.
Ça fait combien? Parce que alors, les kilowatts.
On n'est pas fort en
térawattheures,
ouais.
Compliqué. Voilà. C'est l'équivalent de
donc,
quoi, à peu
là,
près
si on fait tout simplement un calcul en se fondant sur les chiffres fournis notamment par RTE, hein, le réseau de transport d'électricité, ça correspond à peu près à 1,5 fois la consommation annuelle en électricité de l'Île-de-France. Donc, c'est-à-dire que le marché de la publicité mondiale correspond à cela. Voilà.
Alors, il y a des questions d'auditeurs, d'ailleurs, Camille.
Oui, on a Patrick sur Facebook qui nous écrit de Guadeloupe. Il dit qu'il y a un panneau, un énorme panneau numérique, un 4x3, avec deux climatiseurs, visiblement à l'intérieur. Il demande un peu ce que ça pourrait consommer. Et d'ailleurs, ça fait penser aussi à ces grands panneaux qu'on voit à New York, qu'on peut voir à Londres.
Et même dans le métro parisien, maintenant.
Et dans le métro parisien. Est-ce que c'est ces panneaux-là qui consomment le plus ou c'est les pubs sur Internet?
Alors, je tiens à préciser que dans l'étude en question, ces panneaux numériques ne sont pas inclus dans le calcul. Donc ça, c'est un élément important. Et à ma connaissance, en fait, il n'y a pas vraiment d'études scientifiques qui a été produite sur ce sujet-là, sachant que en fait, ces panneaux sont en cours de déploiement et en France, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est encore extrêmement répandu. Ouais. Mais une chose est sûre, c'est que quand on regarde, par exemple, les conventions passées notamment avec la RATP, on voit que globalement le déploiement dans les années à venir va être relativement important.
Déjà Théophile Mégali, il y a beaucoup d'associations qui sont vent debout contre ces panneaux publicitaires là qui arrivent numériques dans les métros de France par exemple et qui justement évoquent le côté totalement énergivore par rapport au papier ou à l'affichage papier traditionnel.
Voilà, alors donc ces associations sont dites publiphobes en fait, hein, ou résistantes à la publicité. Oui. Et là où avant elles étaient sur des terrains plus classiques, là aujourd'hui trouvent en fait dans la critique de la dépense énergétique finalement une sorte de second souffle, hein, qui est assez légitime. Voilà, moi je suis pas trop de cette tendance, hein, je tiens à le préciser, mais en tout cas par contre je trouve que il serait bon de s'interroger en fait sur de la part des industriels même hein, sur cette consommation en question.
Et vous, vous avez pu savoir, par exemple, la RATP vous en parlait, quel est leur argument pour remplacer justement les bons vieux panneaux papier affiche par des panneaux numériques?
Alors, si vous voulez, c'est un peu là, je reprends un peu ma casquette de gestionnaire, en tout cas, ou d'économiste, c'est que, en fait, si vous voulez, le secteur publicitaire évolue et se digitalise vraiment de manière très sensible, et l'affichage extérieur, en fait, l'industrie qui correspond à ce secteur-là souhaite anticiper un peu les évolutions à venir. Et donc, comme aujourd'hui, l'époque est tout numérique, eh bien, on va proposer des solutions numériques. Et ce qui est important de souligner, c'est que avec ces panneaux là aujourd'hui, je saurais pas vous dire exactement ce qu'il en est, mais en tout cas ces panneaux ont la capacité d'être reliés en fait à la publicité, aux canaux digitaux de la publicité. Donc en gros, pour être très simple, si vous voulez, l'achat publicitaire qui se fait aujourd'hui pour les sites internet par exemple pourra se faire de manière globale et on pourra afficher une publicité aussi facilement sur une page web que sur ses écrans. Donc si vous voulez, l'industrie, on va dire, va dans ce sens-là, mais pour autant, elle ne réfléchit pas trop à ce que ça implique en termes de dépenses énergétiques.
Ouais. Et justement,
et la RATP...
Oui, pardon.
Ouais, juste pour terminer, la RATP, en fait, elle était une régie publicitaire aussi, hein, donc en ce sens, en fait, elle souhaite moderniser ses modes et va dans ce sens-là. Mais comme c'est une régie, je trouve qu'il serait, par exemple, à titre personnel, hein, intéressant qu'elle s'interroge sur justement ce type de dépenses
en
énergétiques.
Tout cas, ironie du sort, je ne sais pas si vous les avez vus, Camille,
non,
justement,
je circule à vélo.
Et Théophile Mégali dans le métro en ce moment ou dans certaines gares, on voit des panneaux publicitaires justement numériques d'EDF avec des pubs EDF qui nous disent moins consommer, c'est bien s'équiper.
C'est ballot.
Voilà, donc ça n'a pas échappé évidemment aux réseaux sociaux. Merci Théophile Mégali, on peut lire votre article puisque vous appelez une sobriété justement sur l'usage de cette publicité. On peut lire cet article sur theconversation.fr. Merci beaucoup à vous Camille, bonne journée.
Bonne journée et à demain.
À demain.